Bonsoir, merci à tous d'être présents en si grand nombre pour cette conférence donc sur la narration procédurale. Alors, chose étrange peut-être pour certains. Dans les jeux vidéo, comment le jeu et le joueur peuvent écrire ensemble une histoire. Pour parler de tout ça, nous avons donc Fibre Tigre, qui est auteur de jeux narratifs, ça tombe bien, et très intéressé par le sujet.
Ouais, c'est. Je pense que j'ai initié le truc parce que c'est.
C'est pas
l'objet
faux.
L'objet de mes travaux et je suis passionné par ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire et je suis une sorte de personne incomprise parce que chaque fois je dis c'est génial et les gens disent ouais c'est pas très intéressant. Donc merci d'être aussi nombreux. J'espère que vous sortirez de cette conférence en disant mais c'est fantastique, c'est le futur, c'est vous avez raison d'être là. Il est 19h et il y a plein de choses intéressantes à faire et pourtant vous êtes au bon endroit. Voilà.
Jeanne Rousseau qui et conceptrice de jeux, pour le coup, type RPG, donc avec beaucoup de narration et beaucoup de choses qui peuvent se rattacher à la narration procédurale d'une manière ou d'une autre.
Oui, effectivement, en plus, on a eu un projet qui restait à l'état de R&D, mais qui était complètement, enfin, qui avait pour volonté d'être complètement procédural. Et on abordera, je pense, par la suite, les limites qu'on doit s'imposer pour l'instant, parce que la technique ne nous permet pas d'aller aussi loin qu'on aimerait y aller. Mais oui, c'est passionnant.
William David de Swing Swing Submarine qui a fait un jeu très narratif à base de renards, mais surtout qui a un projet de jeu en ce moment qui ressemble quand même pas mal à de la narration procédurale pour ce que j'en ai vu.
Ouais, moi je suis le petit nouveau dans la narration procédurale. Hein. Oui, on a fait un prototype qui était présent à la Gamescom cette année, qui était totalement sur le sujet, c'est-à-dire un espèce de jeu de société où quand on arrive sur des cases. Les événements sont choisis aléatoirement et par rapport à ce que fait le joueur et les choix qu'il fait à l'intérieur, ça va amener des conséquences. Voilà, tout simplement.
Et David Calvo, donc, c'est toi, pour le coup, tu as notamment travaillé. Alors, je ne sais pas sur le jeu actuellement sur lequel tu travailles, en quoi il peut se rapprocher de la narration procédurale ou pas, mais je sais que tu as. Sur le jeu dont j'ai oublié le nom avec l'arbre et
c'est Quan, j'allais parler de
voilà,
ça. Oui.
Quan, voilà, Quan, voilà. Où il y avait vraiment cette très forte tendance aux joueurs de participer avec le monde à raconter l'histoire, notamment avec les pixels qui se dessinaient dans l'arbre, qui était quelque part une narration divergente de ce qu'on peut imaginer comme la narration d'un jeu, quoi.
Oui, alors c'est pas une vision de la narration procédurale telle qu'on la conçoit. C'était juste moi mon interprétation du truc avec les maigres moyens que j'avais, et j'ai préféré aller vers l'idée que le procédural était en fait une intelligence collective et que on pouvait donner des outils à cette intelligence pour pouvoir créer des choses et pour pouvoir créer une histoire. Moi, j'avais mis en place des bornes narratives, des choses qu'on pouvait faire, et à l'intérieur de ça et à l'extérieur de ça, il pouvait y avoir tout un tas de mouvements qui pouvaient remettre tout en jeu, réassembler, remettre en cause, etc. Et c'était comme c'était un mémo, c'était permanent. Je dis c'était parce que on est obligé d'équiler les serveurs là ces temps-ci parce que on a des problèmes avec Unity 3 par rapport au truc, et on n'a pas le temps de passer en Unity 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement travailler à une version un peu plus épurée parce que les idées qui sont là, voilà. Mais voilà, donc c'était plus l'intelligence collective et comment est-ce qu'on peut réorganiser l'environnement, comment est-ce qu'on peut réorganiser les mythes aussi, la mythologie. Et là, je travaille spécialement avec des boîtes qui font de l'IA en fait pure. Et là, on travaille vraiment à essayer de collaborer avec des intelligences artificielles pour créer des histoires ensemble, quoi. Alors que ce soit des histoires dynamiques, très action, ou que ce soit quelque chose de plus littéraire, voilà, ça, là, on ne sait pas trop encore. Mais enfin, si on sait, mais on hésite. Donc, on fait les deux. Voilà. Donc oui, je suis dedans complètement aussi, quoi. Mais j'ai des vues aussi un peu réac, mais je vais me mettre juste en avocat du diable, tu vois, juste pour le fun, parce que j'aime bien travailler mes idées comme ça.
Moi, je suis contre l'IA en tant que...
Super, et voilà. Parfait, donc on va pouvoir se blaster un peu, ça va être cool.
Très bien.
Eh bien, Fibre, puisque tu es un peu à l'initiative, comme tu l'as dit, de ce sujet de conférence... Dis-nous la narration procédurale.
Alors, on définit en deux mots déjà, parce que c'est pas évident. Donc, quand on écrit un livre ou un film, un humain écrit des textes sur du papier qui sont ensuite imprimés et vendus dans des librairies ou joués par des acteurs. Dans le jeu vidéo, on peut se permettre de faire des choses différentes. Pourquoi ? Parce que quand on fait des murs dans un jeu vidéo ou quand on fait de la musique, ben parfois c'est pas le fruit du travail d'un humain, c'est le fruit du travail d'une équation. Une équation qui, par exemple, dans No Man's Sky que vous connaissez, dans Frontier Elite de 1993, dans Elite Dangerous, dans Star Citizen à moitié, donc dans tous ces jeux-là, dans Daggerfall, dans Arena qui était avant Daggerfall, eh bien, c'était des équations qui définissaient l'univers. Ce n'étaient pas des humains qui ont placé toutes les choses. Et le jeu vidéo a une industrie tout à fait particulière. Écoutez ça, le jeu vidéo est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que avant, il était fait par des robots. C'est-à-dire que le monde de Daggerfall a été dessiné par des robots. Et quand on a eu l'argent, eh bien, on s'est payé des humains. C'est-à-dire que quand les gars de Daggerfall, ils ont eu de l'argent, ils ont fait Morrowind, ils ont dit on vire tous les robots et ils ont pris des humains pour poser le moindre caillou par terre a été posé par un humain. C'est la seule industrie que je connaisse qui est passée de l'automatisation à l'artisanat. Parce que on a cette nécessité de faire passer aux joueurs le fait qu'il y a un humain derrière. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner l'idée de raconter des univers et des histoires de façon soit totalement automatique, soit semi-automatique. Voilà. Et on peut aller très loin dans le sujet. Je suis intarissable, donc envoyez-moi des bouteilles d'eau à la tête.
Finis la narration procédurale d'abord. Non, déjà, ta première définition.
Ça c'est pour définir les choses. Alors aujourd'hui, on peut aller petit à petit dans ce territoire. Donc on va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce que ce sera le futur éventuellement, oui ou non, suivant nos recherches et nos développements. Aujourd'hui, quand vous jouez à Skyrim et que vous rencontrez un PNJ, il va vous dire une phrase qui a été écrite par un humain mais qui est le fruit d'une combinatoire. C'est-à-dire qu'il va vous dire, si vous avez une bonne compétence en alchimie et que vous êtes un orc, il va vous dire... l'orc, tu vas me synthétiser une bière, ce serait cool, tu vois. Mais si vous aviez une compétence en vol, il vous dirait, oh, attention, t'es un voleur, le breton, parce que c'est une autre race. Donc, en gros, ils ont réussi à générer, 800 phrases à partir d'un batch de combinatoire d'un certain nombre de phrases. Donc, on commence avec la combinatoire à commencer à créer procéduralement des phrases. Mais ce système a des limites. Vous connaissez bien la blague du mec qui a une flèche dans le genou, parce que effectivement, il y a des phrases qu'on entend et ça tourne en boucle. Cela dit, le cerveau humain aussi, il a des limites. C'est-à-dire que si vous écrivez des histoires et que ces histoires, vous les répartissez selon une granularité particulière, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes intéressantes, mais certaines sont très intéressantes, et que vous en écrivez insuffisamment, disons que vous en écrivez 500. Si je suis comme Scheherazade des Mille et une Nuits, que je vous raconte ces 500 histoires, eh bien, la 501e, je peux vous raconter à nouveau la première parce que vous l'aurez oublié. Parce que le cerveau humain, c'est limite. C'est ce que dans Out There, le jeu qui est là-bas, il y a un nombre limité d'histoires, mais les gens, ils jouent sans cesse parce que les histoires, ils les oublient au fur et à mesure. Ça, c'est une des astuces de narration procédurale combinatoire. Mais on est dans des systèmes très, très basiques. Voilà. Je continue ? Très bien. Je suis ravi de parler. On peut imaginer aussi des textes à trous, c'est ce que faisait Raymond Queneau, c'est-à-dire il était une fois dans trou, le héros trou, et là vous mettez ce que vous voulez dans les trous. Là ça permet aussi de démultiplier avec simplement des motifs différents, vous pouvez créer des histoires différentes. Maintenant, je vais vous poser une question. Imaginons qu'on pousse le système combinatoire très très loin, et même imaginons qu'on ait des IA magiques, je peux vous parler des limitations de l'IA. Imaginons que on joue à Skyrim et que on rencontre un personnage dont la personnalité, on est dans le fantasme, le dialogue qui va vous dire et la quête qui va vous proposer soit entièrement générée à la volée grâce à des algorithmes ou une IA. C'est cool, c'est une feature dans les années 90, les gens vous auraient dit c'est génial, c'est incroyable. Or le problème, c'est que, et là on atteint les limites conceptuel et non pas technique, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est une expérience commune. On se raconte le match de foot. C'est-à-dire que quand je joue à Skyrim ou à PUBG ou à n'importe quel jeu, j'ai besoin d'aller voir mon pote et lui dire « Mec, j'étais à Rivebois, j'ai tué un poulet, le garde m'est venu dessus. » Et le mec dit « C'est génial parce qu'il l'a vécu aussi ou il peut le vivre. » Et il y a l'expérience commune. Et c'est pour ça qu'une histoire... C'est là qu'on atteint les limites de la narration procédurale en termes de conceptuel. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire du pur génération procédurale à la volée, parce qu'à un moment, il y a besoin de marqueurs communs dans une histoire. Voilà. Donc...
L'un n'empêche pas l'autre.
Pourquoi ?
On peut très bien avoir, par exemple...
Alors, c'est mon opinion.
On peut très bien avoir un canevas ou un cadre historique qui peut rester le même. Rivebois, par exemple, un lieu, un garde, un poulet, et évidemment, éventuellement, dans un certain nombre d'autres éléments, et de permettre, malgré tout, une latitude de possibilités quasiment infinie. Alors, je peux adopter le poulet, en faire mon meilleur ami, je peux effectivement marcher sur le poulet, je peux, tu vois, je peux tuer le garde et épouser le poulet, enfin, j'en sais rien.
Alors, selon ma vision, il faut distinguer une situation émergente, qui est quelque chose de positif recherché, donc l'inattendu provoqué par le joueur, et notamment les Twitchers qui sont prescripteurs, blablabla, et la narration procédurale. Alors aujourd'hui, quand on parle de narration procédurale, quand on va voir des gens qui font de l'IA, les grands ponts, c'est Emily Short, etc., qui veulent mettre... Alors c'est quoi... Parlons un peu de l'IA, et je reviens sur ton truc. Hein. L'intelligence artificielle par réseau neuronal, donc le deep learning, c'est la chose suivante. Vous donnez un corpus très important de mots, de phrases à un réseau neuronal. Quand je dis très important, c'est 3-4 milliards de mots. D'accord ? Et cette IA est capable ensuite de vous parler, de parler et de créer ex nihilo à l'infini des phrases. Et donc, dans ce cadre-là, quand vous rencontrez un PNJ, il va vous raconter avec un style unique à la volée et un fond, enfin une forme et un fond à la volée, une phrase. Et c'est ça dont je parle, la narration procédurale.
Oui,
non,
mais j'ai bien compris de quoi tu parlais. Ouais. Mais je ne vois pas en quoi on ne peut pas à la fois cadrer, donner un cadre qui peut être un lieu ou qui peut être un nombre de personnages, par exemple. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que ça fonctionne pour l'instant dans ce qui commence à fonctionner en narration procédurale. C'est qu'on définit un certain nombre de contraintes, exactement comme des contraintes techniques. C'est, par exemple, c'est un huis clos, j'ai 6 personnages, ils sont dans un lieu qui est, j'en sais rien, un monastère. Les personnages sont enfermés là-dedans. À partir de là, les personnages eux-mêmes qu'on va pouvoir rencontrer en tant que joueurs vont effectivement avoir, par exemple, tout leur langage, tous les échanges qu'on va pouvoir avoir avec eux, mais aussi leurs actions, leurs interactions, leurs mouvements, le fait que, j'en sais rien, ils puissent décider de se mettre en colère ou pas, de nous aider ou pas, et ainsi de suite, va être effectivement géré de manière procédurale, mais le cadre qui reste ce monastère, ces 6 personnages et donc le joueur qui est mis au milieu de tout ça, pendant, par exemple, un temps donné, le procédural ne concernera finalement que les actions des personnages, ce qui est quand même déjà énorme, et évidemment tout ce qu'ils vont pouvoir raconter, nous dire, et ainsi de suite. Et c'est déjà un champ d'expérimentation qui peut être énorme. Ça veut dire que le joueur, quand il peut... je prends ces exemples-là de manière très intéressée, c'est que c'est le projet qu'on avait monté. L'idée, c'était une sorte de murder party, hein, mais en jeu vidéo. Et d'avoir autant que possible, à partir de profils de personnages, les PNJ étaient définis de manière très très précise, avec un certain nombre de jauges liées à des tempéraments, à des points de rupture, par exemple, ce genre de choses, de telle sorte qu'un joueur qui arrivait là-dedans pouvait effectivement interagir avec les différents personnages, et en fonction de ce qu'il allait dire, des choix qu'il allait faire, même des objets qu'il allait pouvoir déplacer, de toutes les interactions qu'il allait pouvoir faire, évidemment, les choses allaient se passer de manière très très différente. On avait la possibilité que tout le monde meure au bout de 10 minutes. Évidemment, le but étant théoriquement que tout le monde survive au bout de 2 jours. C'est le principe de la murder quand même. Et surtout le joueur. Mais tout ça était entièrement, et avec effectivement du coup un travail sur le langage qui était important, puisqu'on pouvait, il fallait essayer, quand même essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc il y avait aussi la notion d'enquête, de ton, etc. Et on était passé du coup par un système, nous, de symboles pour éviter des problèmes de traduction. Là du coup je vais un peu loin, hein, dans l'idée, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait du coup des tests avec des gens qui se racontaient leurs expériences. Et il y avait suffisamment en commun malgré tout, les personnages, ils pouvaient les nommer, les noms ne changeaient pas, hein, d'une expérience à l'autre, et dire, ah bah, moi, machin, il s'est suicidé à un moment, et alors que l'autre allait dire, ah bon, mais moi je l'ai protégé, il m'a aidé, et ainsi de suite. Et ça donnait des choses aussi très intéressantes en termes d'échange d'expérience.
Alors, là, tu as une structure avec, enfin une structure objet, donc on a des curseurs, comme tu as dit, c'est une structure objet, voilà. Et en fait, la génération procédurale poussée par IA n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas maîtrisé sous forme de curseur. Donc, je suis d'accord, c'est très bien. C'est un peu du Skyrim +++, et je trouve c'est maîtrisé.
En quelque sorte, oui.
Et je trouve que c'est bien. Mais c'est pas le rêve de la narration procédurale absolue dont j'ai entendu parler, en tout cas. Voilà.
Ouais. Mais moi, je suis totalement d'accord avec le fait que la narration procédurale et la narration procédurale IA complète, telle qu'est le rêve de certaines personnes, j'avais mentionné les story Legos des gars de 2K à Boston, c'est c'est pas ça, tu dis bien le mot, c'est pas ça l'idéal de la narration procédurale. Parce que finalement, on cherche. Alors, par narration procédurale, il faut faire attention aussi, parce que là, on est beaucoup sur les mots. On est beaucoup sur les PNJ qui s'expriment, on est sur les situations, sur la description de situations, sur. Et ce qui est super beau, et moi, je trouve que c'est la raison pour laquelle on est aussi à un festival de littérature, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a des auteurs, il y a de l'écriture, et je pense que ça, c'est tellement fondamental. Et de la même manière qu'on va s'intéresser, que des gens vont s'intéresser aux muets, que des gens vont s'intéresser à certaines choses expérimentales, à des vieilles formes, c'est super important de comprendre qu'on ne peut pas jumper technologiquement comme ça, d'un coup, dans l'inconnu, alors que les IA sont globalement, pour l'instant, comme tu l'as très bien dit, des espèces de corpus, de codex, de combinatoires, quoi, comme ça, hyper puissantes, mais qui sont hyper... cadré comme ça, et qu'alors qu'il nous reste tellement de choses en craft à trouver en termes de branchement, tu l'as très bien dit, avec les 500 histoires aussi là qui reviennent, tout ça c'est des avec la narration collective, ce que les gens se racontent, est-ce que la rumeur qu'ils ont entendue c'est la bonne, est-ce qu'ils vont dans le bon endroit, tout ça c'est des choses qui sont fondamentales et qu'on doit creuser, et c'est ça qu'on fait en fait, on dit la même chose en fait, c'est hyper important. Mais par contre, il y a un truc qui est en train de se passer avec l'IA qui est intéressant, et moi c'est là où je suis témoin de ça en ce moment, parce que à Montréal, et Montréal est en train de shifter vraiment jeu vidéo, du jeu vidéo à l'intelligence artificielle, même s'il y a toujours des gros studios de jeux vidéo là-bas, mais il se trouve que moi je vis à Montréal et je travaille là-bas, et je vois l'arrivée des boîtes de jeux à IA en fait, et là ça commence à vraiment devenir intéressant. Ce qu'ils essaient de faire, c'est que effectivement ils étaient partis au début sur des trucs à la Emily Short. Alors Emily Short, c'est une des grandes déesses de la fiction interactive, c'est-à-dire vraiment les textes avec des parseurs, c'est-à-dire avec des reconnaissances de mots, aller au nord, prendre ça, combiner ça avec ça, voilà. Et elle a écrit un jeu qui s'appelle Versus, qui est une sorte comme ça de générateur de discussion avec des espèces d'entités qui sont des IA. Alors c'est emprunté avec tout un protocole très intéressant qui est très cadré justement, qui est le protocole de savoir-faire des Anglais en fait au début du 18e siècle. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Et donc Jane Austen, tout ça, quoi. Et c'est passionnant parce que c'est tellement cadré que l'IA, dedans, elle fonctionne. Ça n'a pas du tout marché, c'est une catastrophe. Personne ne veut investir d'argent là-dedans. Toutes les boîtes qui essayent de faire des trucs comme ça, très textuels, n'arrivent pas à récupérer l'argent. Donc il y a une nouvelle question de dire, est-ce que les IA véritablement doivent nous raconter des histoires, même si on peut les utiliser pour, par exemple, nous raconter des environnements où se sont passées des histoires, mais ou alors est-ce que ça ne peut pas être des entités? Et là, je reviens sur ce que tu dis. Est-ce que ça ne peut pas être des entités présentes dans des structures élégantes, écrites, qui ont une capacité d'influencer les choses qui arrivent en fonction de degrés d'émotion, en fonction... Il y a tout un tas de gens qui travaillent là-dessus. Le grand Chris Crawford qui a tenté de formaliser ça sous forme de narrative storytelling, interactive storytelling. Un très beau bouquin, d'ailleurs, si vous vous intéressez sur le sujet, qui s'appelle comme ça. C'est des choses qui ne sont pas destinées à devenir l'histoire, mais de devenir des espèces de moments stochastiques comme ça dans le monde, qui vont suivant une combinaison, vont brancher sur telle zone qu'on a écrite. Et il peut se passer des choses très belles comme ça en termes de distribution, quoi. Et voilà, donc je pense qu'il faut rester ouvert un peu aussi à ces questions-là, en tout cas en tant qu'auteur, je pense que... Voilà.
Alors, juste pour recadrer, donc... En poussant vertueusement la narration procédurale, c'est-à-dire on peut procéder comme le projet de Jeanne, qui j'espère sortira un jour, c'est-à-dire que vous mettez des sortes de points de référence, des marqueurs, j'appelle ça. Donc on sait qu'on est dans une abbaye, on sait qu'il y a telle personne qui existe, on sait qu'il va réagir comme ça si on fait ça. Et après, un peu comme en littérature structuraliste, c'est-à-dire que le joueur devient le grain de sable dans la mécanique et il peut tout se passer. Ça, c'est quelque chose de maîtrisé. Et effectivement, c'est l'ultime frontière avant le chaos. Et aujourd'hui, l'IA, c'est le chaos. Après, quand je discute avec les spécialistes de l'IA, et après, je vais plus parler d'IA, comme ça, on aura évacué le sujet. Ils me disent, c'est vrai, finalement, tu as raison. Mais ce qui est cool avec l'IA, c'est qu'elle peut parler naturellement. C'est-à-dire que quand on dit bonjour à quelqu'un, dans un jeu vidéo, il va vous répondre bonjour. Mais si c'est une IA, elle va vous dire hello. Ou même, elle va vous dire, va te faire foutre, tu vois, parce que... Elle aura appris qu'il y a plein de façons de répondre à un bonjour. Mais là encore, c'est la diversité des dialogues d'une narration procédurale ultime. Elle dépersonnalise les individus. Et finalement, un personnage de jeu vidéo un peu con, comme Bellator dans Skyrim, qui vous dit je vais tout racheter, si j'avais ma sœur, je vous la vendrais. Tu vois, il dit toujours les mêmes gimmicks 150 fois, parce que tu allais voir 150 fois. Et bien, ce gimmick, c'est bien, c'est, ça a une zone de confort mental, c'est une personnalisation du personnage. Donc, en gros, l'idée, c'était de dire que l'ultime chaos dans la formalisation des événements et de l'écriture n'est, selon moi, pas une bonne piste pour le moment. Qu'est-ce qui reste comme piste ? Là où je travaille en ce moment, je vais vous dire d'où ça vient. Je viens du monde du jeu vidéo en branchement. Vous savez, vous prenez la porte gauche, la porte droite, et vous devez sortir dans une sorte de labyrinthe de...
Le livre dont vous êtes le héros.
Oui, le livre dont vous êtes le héros, dont les jeux vidéo sont les descendants. Et en fait, les joueurs, quand ils jouent à un jeu et qu'ils s'y connaissent, ils savent qu'ils sont dans un jeu. Ils savent qu'ils ont des choix, ils savent qu'ils peuvent revenir en arrière. Ah, si j'avais pris la porte rouge plutôt, tu vois. Et en fait, ils sont à la fois en train de jouer à votre jeu, mais à la fois, il y a une partie d'eux qui devient de plus en plus grande, qui sait qu'elle joue au méta-jeu, c'est-à-dire au labyrinthe de votre jeu. Et moi, je me suis toujours dit comment faire en sorte pour anéantir ce labyrinthe. Et un jour, je l'ai trouvé par hasard, c'est-à-dire qu'il suffit de faire un jeu d'aventure à deux joueurs. Si vous faites un jeu d'aventure à deux joueurs et que le joueur, il a vraiment la liberté de faire... Le joueur avec lui, qui vous accompagne, il a la liberté de faire autre chose, on a une sorte de labyrinthe en trois dimensions et ça devient très compliqué de, à la fois de comprendre ce que vous voulez, enfin, les possibilités du jeu et qui s'ouvrent avec la collaboration d'un deuxième joueur. Et c'est là que j'ai commencé une réflexion sur et si l'ultime narration procédurale venait d'interactions de gameplay entre plusieurs joueurs. Je vais vous donner un exemple fondamental, et puis après on pourra en discuter, et puis je pourrais vous dire ce que j'ai fait concrètement. Prenons un MMORPG, supprimons toutes les quêtes. Les quêtes, dans un MMORPG, sont écrites par des humains. Imaginons maintenant qu'on instaure des systèmes de gameplay qui créent des histoires. Exemple, quand David, dans ce jeu, achète une maison et un chandelier dans sa putain de maison, dans la quête des voleurs, ça crée une quête, voler le chandelier de David. Ce qui fait qu'il va y avoir un joueur qui va essayer de voler son chandelier. Et ce chandelier qui valait rien du tout, tout d'un coup, ça va être la guerre. C'est-à-dire, le mec, je vais lui voler son chandelier, lui, tout d'un coup, un voleur est venu chez toi, et t'as volé le chandelier, et ça crée une histoire de fou. Et le mec, il va peut-être racheter un chandelier, et il va mettre des pièges à loup autour, tu vois. Donc, ils vont commencer à se créer des choses, il va même dû avoir du design itératif entre deux joueurs, et ça va créer des choses avec, vous voyez, une règle de gameplay ultra simple qu'on peut en plus simplifier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste en faisant un système de pricing d'objets, par exemple, et de revente d'objets volés, c'est vraiment une règle très très simple. Et on peut imaginer un futur de gameplay, de multijoueurs, pas forcément deux joueurs ou un million de joueurs, ça peut être 400 joueurs, mais qui se créent des interactions Game of Thronesiennes fortes, incroyable, juste avec des bonnes règles. Voilà. Ça, pour moi, c'est le futur de la narration procédurale.
Est-ce que c'est parce que Eve a déjà réussi à faire avec même pas la partie...
C'est sur les réseaux, j'ai l'impression que ça existe déjà.
C'est
mais
ça, voilà. Oui. Eve avec même pas la partie règles de gameplay, mais les joueurs ont créé eux-mêmes des histoires et un univers politique.
On est aussi formalisé, visiblement. Là, tu es plutôt dans la logique de ce que Stéphane Bura avait essayé de faire avec Storybricks, c'est-à-dire réellement créer des briques comme ça, qui sont multiples, qui peuvent être des objets, qui peuvent être des personnages, qui peuvent être des moments, qui peuvent être tout un tas de paramètres et qui s'activent les uns les autres en fonction de leurs conditions, en fait. Quoi. C'est exactement la quête du voleur. C'est même dans Storybrick, en fait, ils l'ont testé, c'était leur benchmark pour lever des fonds. Ils n'ont pas réussi, je crois qu'ils étaient un peu en avance, et j'espère que tu auras plus de chance avec ça, parce que c'est vraiment un truc du futur. Juste pour info, ils avaient vendu leur technologie à Sony pour EverQuest Next, et tu sais, EverQuest Next était lancé dans un espèce de truc de landmark incroyable, là, où tu pouvais tout détruire, tu pouvais trouver des quêtes dans tous les sens, etc. C'était basé sur Storybrick déjà. C'était un éléphant, le truc, il s'est vautré, ils sont tombés dans un ravin, ils sont tous morts, enfin bon, c'est horrible, quoi. Le projet s'est crashé, et Storybrick, c'est mort. Et le mec de 2K, il travaille là-dessus, il a rebaptisé ça Story Legos, en fait, et c'est ces espèces d'activation d'éléments qui peuvent être très différents les uns les autres, et qui permettent de faire ça. Donc, je connaissant Stéphane est un spécialiste du procédural quel qu'il soit, en fait, et il est très intéressé par tout ça. C'est une espèce de penseur qui a travaillé avec Chris Crawford, d'ailleurs, et qui a très bien formalisé tout ça. Et franchement, je pense que moi, je te souhaite vraiment d'y arriver, parce que je nous souhaite à tous et à toutes d'y arriver, mais, en fait, parce que c'est ta raison. C'est une espèce de graal ultime de pouvoir faire ça dans un jeu, parce que ça reste un jeu, ça reste formalisé. C'est pas simplement ce qui a été sur Quan, où tu avais une intelligence collective qui se racontait des histoires. C'est pas ça dont tu parles. Tu parles réellement de quelque chose qui est fait pour, en fait.
L'idée est de prendre tous les systèmes actuels dans la création de jeux et les substituer par des interactions entre deux joueurs. Je vais donner un autre exemple. Le générateur de nombres aléatoires. Donc, vous êtes... Non, imaginons, vous êtes dans un... Vous avez trouvé un trésor dans un donjon, vous allez ouvrir le coffre, là, le jeu, il va lancer un dé à 100 faces, et suivant le résultat, vous allez avoir une super épée ou une épée nulle. Ou de l'or, ou ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est un générateur de nombres aléatoires. Imaginons que demain, votre jeu il est relié de façon asynchrone au jeu d'un autre joueur, et les actions positives ou négatives de cet autre joueur, qui sera une sorte de dieu, va influer sur votre loot. C'est-à-dire que si votre joueur, c'est un gros connard, il opprime des gens, il les vole, tout ça, vous allez avoir un loot complètement nul, et vous allez avoir des tempêtes, et vous allez avoir vraiment beaucoup de malchance. Par contre, s'il est super gentil, vous allez avoir un super loot. Et du coup, vos actions vont peut-être être bénéfiques ou positives, et elles vont influencer une autre partie en une sorte de boucle de karmique, vous voyez. Et tout ça pour vous dire que, tout d'un coup, quelque chose qui n'a pas de sens, comme le loot, il en a, il a du sens, et il y a une expérience transcendante, je trouve, personnellement. Ça, c'est d'autres exemples. Voilà, bon, je vais pas en parler des heures, mais voilà. Vas-y, David.
Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que je le pensais depuis le début qu'on avait commencé à en parler. Ta solution à la narration procédurale, finalement, c'est le game design.
Oui.
Mais un pan de game design qui n'est pas exploré aujourd'hui. Parce que dès qu'on met deux joueurs entre eux, on préfère leur mettre des armes dans les mains et se dire de se tirer dessus parce que c'est plus simple. Et donc voilà, en fait, ça me fait rire juste parce qu'on commençait à parler beaucoup sur les mots, sur les histoires, les trucs comme ça. Et moi, je pensais vraiment à ce qui se fait déjà dans le procédural au niveau du level design avec Spelunky ou d'autres jeux de ce même genre. Mais celui-là, tout particulièrement, c'est juste que le jeu va décider lui-même où il place les objets par rapport à un espèce de nombre de... Comment dire ? Le niveau est fait en blocs, mais vraiment comme des salles, on va dire, et il y en a un nombre fini, et ensuite, les objets vont être placés aléatoirement dans les salles. Et c'est parce qu'il y a un petit serpent qui ne va pas être placé au même endroit à chaque fois pour les joueurs, que ça va être l'apocalypse dans les niveaux, quoi. En fait, ça se fait déjà, mais c'est vrai que... Bah, ce que tu essayes de faire déjà avec aussi Antioch, en fait, tu vas peut-être en parler aussi, mais confronter des joueurs et faire en sorte que leurs actions aient des répercussions sur les autres, bah ça se fait pas. Enfin, des répercussions qui ne sont pas juste mourir, quoi.
Mais est-ce que ça ne serait pas énormément. Est-ce que ça serait pas juste déplacer le random, en fait ? Puisque si c'est une personne au hasard dont les actions vont influencer notre monde d'une manière qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est quelqu'un d'autre qui vient l'influencer, est-ce que ça, c'est pas juste déplacer le random ?
Si tu perds toute ta fortune à cause d'un tremblement de terre ou à cause d'un mec en particulier, je peux dire la réaction est complètement différente. Tu vas vivre quelque chose de différent.
Ton expérience de jeu, tu le sais à peine, en fait.
Non, mais je te parle dans la vie réelle. Si un mec te défonce ta voiture ou qu'il y a un rocher, un météorite qui tombe sur ta voiture, c'est une expérience émotionnelle différente, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire que si tu as un loot de merde pendant 15 jours, tu vas haïr la personne qui est associée à ton jeu, tu comprends ? Mais tu vivras quelque chose qui sera autre chose que d'ouvrir un trésor dans un truc.
Mais est-ce que dans ces cas-là, il faut s'assurer, et ça devient du coup du méta-jeu, c'est-à-dire que c'est hors du jeu, que le mec sait que si son loot est pourri, c'est la faute d'un bidule, alors à voir si on le nomme ou pas, et là ça peut très très très, très, très mal tourner, hein. Il peut y avoir de la vengeance dans la vraie vie.
Ou alors il peut l'appeler et dire écoute, aide-moi, et sois plus cool, et puis voilà. Mais c'est de la spéculation, c'est juste pour vous amener en fait sur un terrain qui est plus ambitieux que ça encore. C'est que moi j'imagine du world building, c'est de la construction d'univers entièrement game design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous jouez à Skyrim, vous avez une maison sous une montagne, vous avez un village sous une montagne qui a un nom, qui est fait dans un certain bois, vous avez des tavernes qui servent un certain menu. Et en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les interactions de joueurs créent ce monde.
C'est ce que tu fais avec Maspero Blue, quelque
Exactement.
Part.
Exactement. C'est ma recherche et du développement. Donc, c'est mon travail en cours. Donc, en gros, l'idée, c'est... des joueurs à moi, dans mes expériences, se baladent dans des univers... Et trouvent des plantes et des animaux. Et s'ils veulent interagir avec, ils sont obligés de les nommer. Donc, j'ai des champignons qui s'appellent pénis. Okay, ça, c'est classique. Mais j'en ai pas tant que ça. J'en ai 1%. Donc, c'est la preuve que. On va dire à un moment, on a envie de créer des choses belles quand on a des bons matériaux à la main. Et donc, ils créent leurs plantes et après, ils peuvent les ramasser, ils peuvent les tester. Elles sont empoisonnées. Il y a un système d'équilibrage gamifié de poisons et de choses comme ça. Et à partir du moment où ils ont nommé eux-mêmes ces éléments de base, le monde va se créer de lui-même. C'est-à-dire que quand vous rencontrez une loutre géante, qui va s'appeler la titano-loutre, par exemple, eh bien, le jeu va créer, par exemple, des hommes titano-loutre qui vont hériter des compétences d'agressivité des personnages que vous avez rencontrés. Et donc, si vous connaissez la titano-loutre, vous pourrez les engager ou faire des choses avec. Et on se retrouve aujourd'hui... Enfin, si vous voulez, si vous jouez aujourd'hui dans un MMO bien fait, vous allez dans Oblivion, vous allez rentrer dans une taverne, vous commandez un repas. En fait, vous allez manger un poulet de la région de machin dans une belle salle de restaurant qui aurait été designée. Mais tout ça, ça aurait été un humain qui l'a fait. Aujourd'hui, dans mes expérimentations, quand vous allez manger un plat dans un restaurant, qui peut être empoisonné d'ailleurs parce qu'il y a des petits malins qui récupèrent des aliments empoisonnés qui en font des plats. Mais en gros, les murs du restaurant ont été faits dans des roches qui ont été trouvées et nommées par des joueurs, qui ont des propriétés de dureté, dans un village qui a été trouvé et nommé par des joueurs et peuplé par des joueurs, et donné le cuisinier, il a un nom qui a été donné par un joueur et qu'il a une compétence aussi qui a été déterminée par rapport à ses attributs. Et le plat en lui-même est une série d'éléments qui a été trouvé dans l'univers. En gros, là, on est dans ce que j'appelle le lore émergent, c'est-à-dire que le world building est totalement créé par des joueurs, par des principes de game design. Alors, vous vous inquiétez pas, c'est un jeu textuel, donc ça reste assez moche, mais l'intention est là. Moi, je voulais faire une preuve de concept. Je suis en train de travailler dessus, et en tout cas, en ce moment, c'est mon cheval de bataille.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, pour l'expérience que j'en ai eue, c'est que à vouloir faire game designer ton jeu, enfin, faire que le game design soit au centre de la mécanique de jeu, personnellement, quand j'ai commencé à nommer des choses, ouais, j'avais tendance à les nommer avec une notion justement assez mécanique de vouloir me rappeler ce à quoi elles servaient, en quoi elles étaient faites, plutôt que de mettre des noms poétiques mais et c'est délirants.
C'est ça qui est fantastique.
J'avais tendance à essayer de faire du systématique, en fait.
Mais c'est fantastique parce que dans l'histoire humaine, quand on a rencontré une poule, on l'a appelée poule. Mais quand les scientifiques se sont dit, mais ce serait bien quand même de nommer différemment les animaux, ils ont pensé à donner des noms phylogénétiques latins. Et c'est ce que tu es en train de faire, mais pas en latin parce que c'est pas à la mode, mais tu as appelé ça poule mangeable, tu vois. Et c'est en gros ce qu'on voulait faire. On a appelé le mot latin, c'est poule domestique, tu vois. Donc c'est, et on retrouve justement des principes hyper logique, tu vois. C'est, on recrée finalement la réalité d'une certaine façon et les expressions normales. C'est mon Graal. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Ça se trouve, je serai complètement ringard dans 2 ans, mais bon, voilà.
Alors, est-ce que, par contre, moi, je trouve ça super intéressant, mais je vois beaucoup plus ça comme de la narration collaborative que comme de la narration procédurale. Pour moi, il n'y a pas de procédurale là-dedans. C'est purement du collaboratif. C'est super intéressant. Et à la limite, ça peut rejoindre ce qu'ont fait certains jeux. Je pense notamment à Vampire ou à où il y avait aussi les Neverwinter qui proposaient ces outils-là, où on avait un outil qui était dédié au maître de jeu qui permettait à un joueur en fait de créer des expériences pour les autres, et les autres les pouvaient jouer effectivement ces aventures-là, et ces rôles pouvaient s'interchanger au fur et à mesure de l'histoire et ainsi de suite, et ça permettait effectivement la narration et au choix d'événements d'être créé par un autre joueur et pas effectivement par le game designer au départ qui avait juste donné une boîte à outils, enfin c'est la toolbox effectivement.
Alors là, j'ai juste parlé du world building procédural. Mais il y a des éléments de narration émergente là-dedans. Ils ne sont pas assez aboutis pour que je vous en parle, mais en gros, ça vient des interactions de joueurs quand même. Voilà.
Ouais, c'est super intéressant. Moi, ça me fait penser. Ça me paraît extrêmement ambitieux et franchement, moi, je trouve ça top. Quoi. Si on peut arriver là, ça va être chaud. On n'y est peut-être pas encore et tout. Mais si j'essaie je pense à 2 travaux que j'aime énormément. Moi, c'est un game designer que j'aime énormément et qui a un peu cette philosophie-là, même s'il n'est pas du tout dans cette dimension-là épique de world building que j'adore, hein, parce que moi, je fais du jeu de rôle, donc forcément, c'est voilà. C'est Jason Rohrer, qui est un type qui est un peu considéré des fois comme un intello du jeu vidéo. C'est pas tout le temps faux, mais il a fait 2 choses merveilleuses, je trouve. Une vraiment qui tient du chef-d'œuvre et l'autre qui est un peu plus malheureux. Je vais en parler un petit peu parce que ça me montre aussi cette idée de proof of concept. Peut-être en fait n'est peut-être pas une proof of concept, peut-être que c'est ton jeu qui est là, peut-être que c'est une matière littéraire comme ça super belle, que ça t'as besoin d'être plus ambitieux que ce que ça l'est, et ça peut déjà être très ambitieux en fait. Et lui, il a fait 2 jeux. Il a fait alors le premier jeu qu'il a fait qui me vient en tête par rapport aux joueurs, c'est enfin il a fait en 2 plus tard, c'est The Castle Doctrine. Mmh. The Castle Doctrine, c'est une horreur absolue. C'est de dire c'est chez moi, j'ai ma famille, j'ai mon chien, j'ai des œuvres d'art dans mon coffre-fort, je peux faire ma maison comme je veux, et le but du jeu c'est de s'infiltrer chez les gens pour voler les œuvres d'art et les vendre pour du vrai argent en ligne. pour se faire des vraies collections à l'intérieur de ta maison virtuelle où tu as volé les trucs aux autres qu'ils ont fait, qui sont des œuvres créées d'ailleurs par les joueurs eux-mêmes. Et il commence à y avoir des cours d'art en fonction de. Alors, des fois, il y a des gens célèbres qui viennent faire une œuvre dans le jeu et qui est vendue je ne sais pas combien. Et c'est horrible parce qu'on est vraiment en train de se défendre contre tout le monde tout le temps. Et ils trouvent toujours des nouvelles stratégies émergentes, c'est complètement émergente, pour pouvoir en fait péter les maisons des autres. Quoi. Et c'est absolument odieux. C'est un jeu en 2D. Enfin, il fait quasiment que des jeux en 2D comme ça, très laid, mais enfin, en même temps très stylisé. Et donc ça, c'est un jeu qui est un peu problématique. Et l'autre, moi, je le préfère.
Bah, il n'est pas problématique. C'est
très problématique pour moi, ce jeu.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est son propos. C'est de parler de The Castle Doctrine, qui est une doctrine américaine du on est maître chez soi et on doit pouvoir se défendre par n'importe quel moyen. Et si on veut mettre des pitbulls et des pièges à loups chez soi pour empêcher les gens de rentrer, on peut le faire. Ah, et s'ils meurent, c'est pas grave pour eux. Quoi.
Ouais, là,
c'est son propos.
Oui, mais c'est son propos. Mais en même temps,
que ce soit violent. Du coup, c'est vrai que c'est
la procéduralité du truc amène de facto la recréation de ce qu'il dénonce, quoi. Donc, est-ce qu'on a envie de toujours replonger dans des boucles de renforcement comme ça, tout le temps pareil, de ces attitudes-là? Je sais pas. Le deuxième, beaucoup plus intéressant, je pense, c'est Sleepy's Death. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre intergalactique. Moi, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vu faites. En fait, c'est un jeu qui joue à deux, et en fait, on crée ensemble un comic book, mais très très simple. En fait, c'est un jeu où on va placer dans. Imagine, on a une maison. Moi, j'ai accès à toute une gamme de choses, de la musique, des icônes, des items, des objets, des personnages. Il n'y a aucun code nulle part. C'est que des autocollants qu'on pose. On peut les faire parler, on peut leur mettre des bulles et compagnie. Et on crée en fait un set de départ. Et on dit, OK, voilà, si jamais, je sais, il y a ça, c'est cliquable, ça, c'est tout ça, mais il n'y a rien qui est codé, rien. C'est parti, run. Là, l'autre joueur arrive dans ta scène avec son perso, il voit tous les props que tu as mis et dit, je vais aller ouvrir le coffre que tu as mis. Et là, en temps réel, lui, il appuie sur stop, et on a un timer pour répondre avec toute la gamme d'outils qu'on a à la scène. Genre, OK, alors, donc, faut que je change l'icône du coffre, que derrière, ça déclenche en fait l'arrivée d'une loutre géante, et que d'un coup, l'autre et la loutre disent, oh mon Dieu, ciel, mon mari. Et là, ils prennent des screenshots, le jeu prend des screenshots systématiquement dans le truc, quoi, et à la fin, restitue toute l'histoire en screenshot, et c'est une histoire de ping-pong narratif, comme ça, entre deux personnes qui disent « Je vais improviser en fonction des éléments que j'ai, et moi, je vais réagir en fonction de tous les éléments. » Et on peut déclencher de la musique, ou faire des trucs comme ça. C'est absolument génial, ce jeu. Quand on joue vraiment avec des gens qui se connaissent pas bien, c'est génial, parce qu'on peut vraiment les surprendre, quoi. Et c'est un peu... Moi, je trouve que c'est ça, c'est de la... C'est, est-ce qu'on est dans la procéduralité encore? Est-ce qu'on est encore dans cette émergence à deux et tout?
Cadavre exquis aussi.
C'est super beau, le cadavre exquis. Est-ce que c'est procédural? Tiens, ça, c'est une bonne question, quoi. C'est une bonne question, quoi. Voilà, j'ai fini.
Et on a beaucoup parlé aussi des textes, de l'histoire au sens procédural, mais en fait, la narration dans un jeu, c'est plus que juste ça. C'est aussi toute l'expérience de joueur. Et je pense notamment évidemment à Out There et au jeu sur lequel tu travailles, toi. Donc, de ce que j'en ai vu, William, effectivement, ce qui est procédural dedans, et du coup, c'est la question, c'est est-ce que les jeux vidéo aujourd'hui ne sont pas déjà de la narration procédurale? Je pense aussi par rapport à ce que tu disais. Sur le fait d'avoir des variables, etc. Le Blade Runner de Westwood avait cette notion de il y avait sur les 70 personnages, il y en avait un certain nombre qui étaient variables de manière aléatoire et non maîtrisées par le joueur et qui changeaient complètement l'histoire avec ses 13 fins possibles, etc. Voilà. La narration procédurale n'est pas déjà le fait de beaucoup de jeux? Donc on a parlé de Spelunky, mais on pourrait parler des Diablo et autres qui sont bien des donjons à la fois customisés et à la fois générés aléatoirement. Et puis vos univers, que ce soit Out There ou le jeu dont j'ai oublié le nom,
Graal,
voilà, où il y a cette notion de on va d'endroit en endroit et en fait chaque endroit correspond à certaines constantes mais qui sont randomisées quelque part. Et est-ce que ça ne crée pas déjà une narration procédurale en termes d'expérience de joueur?
Ouais, bah Graal, c'est quand même le niveau simplifié, c'est un peu ce que disait Fibre, c'est la combinatoire et tout ça, mais après on rajoute beaucoup de choses pour un peu comme au théâtre, pour faire croire qu'il y a plus derrière. Voilà. Un peu comme dans Reigns, où... oui, il me semble que c'est dans Reigns, où en fait, tu ne peux pas savoir quelles sont les décisions qui ont une conséquence ou qui n'en ont pas. En fait. Et du coup, tu crois qu'elles ont toutes une conséquence. Et pour le joueur, dans son cerveau, tout a été prévu, mais pas du tout. En fait. Il y a des choix qui vont nulle part. Oui, moi je serais tenté de dire que ça existe déjà en fait, la narration procédurale, mais pas de la façon dont Fibre le dit. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement il propose ce que tu disais sur le comics qu'on peut faire en temps. Ça ressemble à du jeu de rôle en jeu vidéo, mais ce qui est bien, c'est que ça n'existait pas forcément avant. Et oui, il y a plus de pans de la création entre joueurs. En fait, le joueur, souvent, on le met dans un monde et puis c'est le monde qui va réagir au joueur. Mais c'est vrai que assez rarement, les joueurs entre eux ont des interactions avec des conséquences fortes et plutôt, enfin fortes, oui, parce que voilà, on peut mourir si on se fait tuer par un autre joueur, mais des conséquences très diverses et très très profondes, quoi.
À l'exception peut-être de Eve, qui est le cas où il y a une espèce de truc que j'ai pas suffisamment exploré. Il y en a qui parmi vous qui ont beaucoup.
Ouais, moi j'ai beaucoup joué à Eve. Ouais, j'ai énormément joué à Eve et puis j'ai aussi fait un peu de j'ai un peu mis mon nez dans les affaires de CCP à un moment donné, donc je connais un peu le sujet. Je voulais juste préciser un truc par rapport à ce que tu disais. Le jeu de rôle comme ça, Sleepy Death, il y a des icônes, c'est des sons, etc. Mais ça existe déjà. Il y a déjà beaucoup de chatrooms. Il y a déjà beaucoup de moteurs de jeux de rôle en ligne. Hein, déjà des gens qui se connectent avec le maître de jeu, qui réagit en temps réel sur ce que font les gens dans les chats et tout. Ça se fait déjà. Tu l'as fait, il me semble, toi même.
Oui, sur Google Plus.
Avec un timer, ouais, c'est ça. Ouais, c'était un grand succès d'ailleurs, je crois. Et non, c'était vraiment remarquable. Et c'est quelque chose qui existe. Et c'est vraiment, je pense que ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que c'est dur de regrouper des groupes de jeux de rôle aujourd'hui, surtout quand tu vieillis un peu, que tu commences à avoir une famille, les machins et tout. C'est super pratique, donc ça existe. Pour revenir sur Eve, c'est ça dépasse un peu l'entendement ce qui se passe sur Eve, quoi. C'est moi, j'ai assisté à des batailles dans Eve, des trucs, mais jamais. Enfin, je veux dire. Quand tu dis que tu as vu des trucs incroyables dans l'espace et que c'est dans Eve que ça s'est passé, et la capacité que les gens de CCP ont eu d'accepter de lâcher prise avec le contenu de leur jeu, même s'ils ont mis des barrières, c'est-à-dire qu'il y a des trucs de sécurité et machin, mais il y a des zones où c'est complètement laissé, mais même de manière émergente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'en LoSec, en NullSec, ils étaient assaillis de drones chinois qui venaient farmer les champs d'astéroïdes au fin fond du NullSec, là, dans un bled paumé, quoi. N'importe qui en MMO, tu vas réagir, tu vas dire, oh là là, mon Dieu, faut que je mette des firewalls, faut que je bloque l'accès aux Chinois, les drones, je peux pas faire ça, etc. Eux, ils ont dit, débrouillez-vous les gars avec ça, parce que ça veut dire chopez-les, quoi. Et donc, ils ont lancé tous les hors-la-loi de la galaxie en NullSec sur les Chinois, quoi. Et ça a donné des trucs de fou. Et c'était déjà il y a quelques années, ça. C'était déjà il y a 3 ou 4 ans, déjà, quoi. Là, ce qui se passe en ce moment avec les prises de contrôle totale d'univers, de planètes, parce que maintenant, il y a des planètes-stations, quoi, que tu peux miner les ressources. Enfin, c'est hallucinant ce qu'ils ont développé autour de ce jeu, quoi. Et ça dépasse l'entendement. Enfin, je veux dire, démarrer aujourd'hui Eve, c'est comme démarrer dans la vie à nouveau, quoi. Enfin, d'une certaine manière. Enfin, littéralement, et ça prend tout ton temps, en fait, aussi. Ça te bouffe, quoi.
Et d'ailleurs, est-ce que dans le cas de Eve, je ne sais pas ce qui est logué d'ailleurs de toute l'histoire de Eve en termes de.
Il y a un énorme travail de mythographie qui est fait par la communauté.
Ce qui est logué concrètement en termes d'action des joueurs et de choses comme ça, quelle quantité de data ils peuvent loguer, mais est-ce que c'est dans le cadre de l'IA et du deep learning, il n'y a pas une idée de mettre une IA dans ce qui s'est passé dans Eve par exemple, et est-ce que ça ne créerait pas une IA capable de jouer à Eve ou de générer un monde à la Eve?
Je vais couper court techniquement au truc, c'est qu'une IA, pour qu'elle marche, il faut 85 gigas de RAM. Voilà. Donc,
je ne parle pas de côté joueur, je parle pour...
Oui, le côté développeur, enfin, côté développeur, créateur.
Pour de la même manière que Google peaufine son IA au fur et à mesure. D'ailleurs, en lui filant pas un corpus de choses, mais plutôt en la faisant jouer elle-même, enfin, en la faisant travailler uniquement toute seule.
Donc, je pense que, notamment, le succès de PUBG est éloquent. Je crois qu'on a l'occasion de sauter au-dessus de l'IA, qui est quelque chose qui est intéressant, mais qui est enfin ce que je quand on me dit qu'est-ce que tu penses de l'IA, moi mon conseil, mais j'ai peut-être tort, hein, je me suis souvent trompé, c'est de dire vous allez perdre votre temps, c'est pas le bon truc, c'est les humains, ils veulent un autre humain en face, et quand vous jouez à un jeu très aride comme Morrowind par exemple, il n'y a pas d'humain en face, mais si, il y a un humain, il y a l'humain qui a posé les rochers. Et vous ressentez, de la même façon que quand vous êtes devant un tableau, Mona Lisa, vous savez qu'il y a eu Léonard de Vinci derrière, et c'est pour ça que ça a de la valeur. Il raconte une histoire, sa technique, son travail, tout ce qu'il a fait, Il y a la même chose derrière un level design ou un game design. C'est très émouvant. Si demain il y a une IA, je ne crois pas que. Il y a que des mathématiciens qui m'ont dit No Man's Sky, ça m'a troublé, quoi. La génération procédurale. Tous les humains ont dit, sinon, c'est de la vacuité. Voilà. Donc, je vous conseille de sauter par-dessus l'IA et aller directement au futur proche qui sera les humains ensemble, quoi. Et juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on donne des armes aux humains pour qu'ils s'entretuent dans les jeux vidéo. Et alors ça, c'est la version américaine. Il y a aussi une anti-version américaine, toujours américaine, qui est très bisounours, qui est et si on faisait tous la fête, voilà. Mais il y a
aussi Minecraft. Hein, et si on donnait tous une pioche et qu'on pouvait tous construire, creuser, etc.
Il y a des façons. Non, mais il y a des façons non violentes, néanmoins, de s'affronter. C'est-à-dire que aujourd'hui, la démocratie, ça reste un affrontement, mais ça reste un affrontement très élégant. Donc, il y a plein de façons d'aborder des systèmes de jeu multijoueurs, pas forcément massivement. Eve aussi, on est un exemple, où on s'affronte aussi intelligemment, précisément, peut-être même violemment, que dans les jeux où on a tous une calage dans la main, mais sans armes. Et ça peut être très, très intéressant parce que l'intelligence est au moins autant sollicitée. Voilà. Il faut que les jeux nous élèvent en tant que joueurs.
Et alors, est-ce qu'on peut aussi penser à une forme d'hétéro-automatisation ? Je sais que dans beaucoup de domaines, l'IA n'est pas lancée toute seule, justement. Elle vient appuyer un humain. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que dans le jeu vidéo, ça serve à ça, qu'il y ait IA plus humain pour créer des choses en narration procédurale ?
C'est un peu de cela dont je parlais au début. C'est-à-dire que, de toute façon, moi, l'IA toute seule, elle a aucun sens. C'était effectivement en donnant un cadre qui était décidé de manière certes arbitraire, mais par nous, narrateurs ou game designers, et ainsi de suite. Mais c'est aussi finalement un petit peu la même chose dans, je crois, la plupart des projets dont on va parler, c'est qu'on définit malgré tout un certain nombre de règles, quelles qu'elles soient, que ce soit le fait qu'on parle de plantes et pas d'animaux, ou que ce soit le fait qu'on parle on avance de case en case, de monde en monde, et ainsi de suite. Il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui définit quelque chose, et après, effectivement, on peut ou pas, soit on donne la main à d'autres joueurs, on essaie par ces connexions-là de permettre de faire émerger, et là on parle effectivement plus de narration émergente, une histoire à partir de ça, une histoire ou un vécu ou une expérience, hein, peu importe, soit effectivement on peut se servir d'une IA comme d'une sorte de supercalculateur qui va jouer avec toutes les probabilités, les possibilités, et réagir aux actions d'un joueur, mais finalement toujours dans ce cadre qui a été défini de départ. Donc je pense que c'est déjà plus ou moins ce qui se passe. L'IA, elle fonctionne pas en roue libre toute seule à partir du grand vide pour essayer de créer des jeux vidéo toute seule, quoi. Ça se saurait.
Il y a aussi des contraintes. On s'est aussi positionné dans l'idée que l'IA était accessible et utilisable facilement, mais il y a des contraintes techniques et on va dire en termes de data qui sont extrêmement bloquantes. Voilà. C'est aussi pour ça que ça me semble être une impasse. Voilà.
On va passer du coup aux questions, vu qu'il reste un peu moins de 10 minutes. S'il y a des gens qui ont des questions pour nos invités, ici.
Oui, bonsoir. Donc, j'avais quelques questions à propos justement de la narration dans les jeux vidéo. Par exemple, quelque chose qui revient beaucoup à la mode, c'est les films interactifs. Et malheureusement, on voit aussi une frustration au niveau des joueurs qui voient les limites des choix et qui parlent beaucoup du coup de l'illusion du choix. Et du coup, est-ce qu'on ne revient pas à la question de est-ce qu'on est plus on veut donner du choix, plus on va être limité techniquement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir développer des graphismes très développés, car justement, on va se retrouver bloqué par toutes ces limites. Et finalement, est-ce qu'on ne revient pas à dire que si on veut une vraie narration procédurale développée, est-ce qu'il ne faut pas se limiter aux aventures presque purement textuelles ?
Je connais des jeux textuels, Hail de Sam Barlow, par exemple, tu dois connaître, tu es une grande con. Donc il y a des jeux où tu peux tout faire, mais tu peux le faire qu'en un tour. Après, c'est terminé, tu vois. Donc, effectivement, on ne peut pas tout prévoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des playtests, notamment en textuel, parce que c'est facile à prototyper, en fait, les joueurs, ils font en général les mêmes choses. Si tu donnes à l'occasion à un joueur de faire n'importe quoi, en fait, il va faire la même chose. Il va ramasser l'objet qui est devant lui, il va essayer de voir la pièce dans laquelle il peut aller faire. Donc, on peut quand même avoir un entonnoir de choses. Après, quand tu parles de film interactif, je veux dire, c'est lourd, quoi. Ça coûte très, très cher, tu vois. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc effectivement, quand on réduit le budget, un jeu textuel aujourd'hui, on fait des compétitions de création de jeux textuels en une heure, tu vois. Donc c'est vraiment très facile à faire. Donc c'est effectivement la technique limite les choix. Mais le film interactif, c'est un bon segment de jeux vidéo quand on n'a jamais joué aux jeux vidéo. C'est bien, on y vient. Et après, on passe à autre chose. Voilà.
En fait, effectivement, s'il s'agit réellement de films interactifs, alors après, il y avait eu un projet qui s'appelait, je crois, The Movie, quelque chose comme ça, qui proposait aux joueurs de créer ses propres jeux, ses propres films. C'était un truc de Moulineux derrière. Hein, il me semble que le concept était. Et en gros, c'était du do it yourself, hein, do your movie yourself. Alors. L'idée était assez intéressante. Après, de mémoire, ça fait un flop total. Et je pense que la réalisation n'était pas top. Mais effectivement, pour permettre aux gens de créer leur propre film avec, du coup, un aspect graphique assez soigné, puisque c'était un peu le concept. Mais finalement, ça voyait assez vite sa fin. Parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas tout proposer. Parce que, alors, bon, en plus, c'était vraiment un film, il y avait toute une idée de réalisation. Il y avait un petit côté gestion quand même, c'était pas du Moulineux pour rien, donc il y avait l'idée de gérer son staff pour pouvoir réaliser son film. Mais bon, je pense que, effectivement, on peut pas pour l'instant, à moins de. Mais avec Skyrim, on commence quelque part à se rapprocher de ce genre de choses. C'est-à-dire que, certes, on a un setting qui est décidé par les gens qui ont écrit le jeu, mais finalement, on peut aussi bien. Enfin, il y a ces vidéos absurdes. On voit le joueur, le personnage du joueur mettre un chaudron sur la tête d'un personnage. Le personnage réagit même pas, il continue de parler avec son chaudron sur la tête. Donc il y a une liberté d'action possible qui est ultra importante, et avec un niveau de réalisation qui est quand même assez joli. Enfin, c'est quand même pas trop moche Skyrim, faut pas déconner. Maintenant, c'est pas pour autant en termes de jeu ce qu'on trouverait dans un film, ou effectivement en termes de drama ou de mise en scène, de cutscene. Ça demande effectivement quelque chose de beaucoup plus linéaire, et c'est un autre type de jeu, et effectivement ça qui prend parti forcément de limiter les choix possibles offerts aux joueurs.
Après, c'est tout un art de savoir faire ça aussi, de savoir quel est le ratio, ce que le joueur peut faire et ce que le monde propose de lui faire, quoi. Et cette équation là, c'est deux trucs qui dialoguent en permanence. C'est le narrative design, il est là, c'est un craft en lui-même, c'est-à-dire oui, les limitations, oui, le fait de ne pas pouvoir tout faire, on peut toujours donner l'illusion qu'on peut tout faire dans des cadres donnés, avec des contraintes données, et tout ça, c'est finalement un art de l'écriture, quoi. C'est littéralement ça, à écrire un jeu, pour moi, quoi. C'est ce rapport d'agency, quoi. C'est qui mélange, en fait, en anglais, c'est affordances et agency, c'est-à-dire ce que le monde propose de faire et l'agency, ce que le joueur peut potentiellement y faire. Et le narrative design, la poésie, finalement, l'écriture, elle se niche là dans cette petite zone. Donc, même si ça coûte cher, même si c'est dément et tout, je pense qu'il y a tellement de façons d'explorer ça en tant que designer, en tant qu'écriveur, que voilà, quoi. Je vois pas ça non plus comme un drame, quoi. Pas du tout.
Une autre question.
Merci. Bonsoir. Pour rebondir un petit peu sur la question précédente et les réponses qui ont été apportées, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal entre narration et procédural, justement dans l'infinité des choix qui pourraient être, enfin des solutions qui pourraient être proposées par cette procédure? Pour moi, la narration, il y a quand même une notion de choix et de sacrifice qui doit être amenée. Donc, dans l'infinité de possibilités, on perd ce choix et ce sacrifice.
On perd l'histoire, quoi.
Oui, voilà, il n'y a plus vraiment d'histoire, il n'y a même pas de narrateur.
J'ai un contre-exemple personnel. Donc, c'est un jeu qui sortira début d'année prochaine que j'ai fait, qui s'appelle Antioch. C'est un polar qui se joue à deux. Donc, c'est un buddy movie, on joue chacun. Chaque fois que je fais un choix, mon pote fait un choix. Okay. Et un des autres concepts de ce jeu, c'est que quand tu dis quelque chose, ça devient vrai. Autrement dit, vous êtes au resto et tu discutes, bon, alors toi, la première fois avec une fille, c'était quoi? Et le mec peut dire, mais moi, j'ai jamais couché avec une fille. Et du coup, ce que tu viens de dire, ça devient vrai. Même si tu avais d'autres réponses, tu aurais pu dire, c'est super. Et si tu avais dit, ouais, c'était, je sais pas, ça s'est passé comme ça, du coup, l'autre chose serait devenue vraie. Et du coup, par tes réponses, tu tailles la réalité. Tu la deviens, et là, tu vois, ça me permet de te répondre à ton truc. C'est-à-dire que tout est possible, mais tu façonnes la réalité avec ces possibilités qui te sont offertes. Voilà.
Mais effectivement, c'est des possibilités qui sont limitées puisqu'elles ont été décidées d'une certaine manière à un moment donné de conception.
On ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais c'est bien de ne pas pouvoir tout faire. Je vous jure, si demain vous avez la possibilité de tout faire, bah, si le jeu vidéo doit être le reflet de la réalité, autant rester dans la réalité. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant. Dans le jeu vidéo, on ne peut pas tout faire et en plus, on peut faire des choses extraordinaires. Donc profitez-en.
Puis en général, la plupart des jeux qui permettent de tout faire, ça déclenche au tout début une espèce de fébrilité, de justement incroyable, je vais sauter partout, je vais tout casser, je vais essayer de parler à tout le monde. Puis au bout de 5 minutes, on en a ras-le-bol en fait, parce que c'est super chiant et il ne se passe rien. Et donc on dépasse ce stade-là et on essaie de retrouver, alors au fait, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ici et c'était quoi mon but en étant ici. Donc finalement, oui, cette espèce, c'est souvent plus un argument marketing en fait, le fait de vous pouvez tout faire, que de réellement un plaisir de jeu. Le plaisir de jeu, il dure 3 secondes et après il est oublié.
Alors, moi j'ai un contre-exemple de ça. C'est Katamari Damacy.
En 2 secondes.
Oui, qui est un jeu génial où tu peux tout manger. Mais tu peux faire que manger. Voilà, tu peux faire des fois, tu peux sauter, tu peux faire que manger.
Comme tu peux agglutiner sur
voilà,
une
tu
boule.
Peux agglutiner, exactement. Excuse-moi, j'étais rapide. Ah. Et du coup, comme c'est le célèbre truc, c'est si on a un marteau, tout ressemble à un clou. Pour quelqu'un qui a un marteau, tout ressemble à un clou. Donc là, on peut tout bouffer et là, ils ont tout laissé bouffer et puis on devient plus gros et puis on peut bouffer la planète et tout. On peut tout faire. C'est une forme de narration très simpliste et compagnie, mais c'est juste un contre-exemple. Si tu as raison, en fait, mais c'est vrai qu'on peut envisager la narration aussi comme ça. C'est-à-dire à quel moment je vais tout manger, je vais devenir un démiurge, je vais me manger moi-même. Quoi. Est-ce que c'est pas ça le rêve de la narration procédurale, finalement ?
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous.